Rencontre littéraire. Moje šílené století, mon siècle fou, tel est le titre des mémoires de l'écrivain tchèque Ivan Klíma, livre dont le premier tome a obtenu le prix Magnesia Litera, la distinction littéraire la plus prestigieuse en République tchèque. Par ce livre, en deux tomes, paru aux éditions Academia, l'écrivain retrace sa vie et répond entre autres à la question pourquoi il a adhéré dans sa jeunesse au Parti communiste. Ivan Klíma est parfois comparé à Milan Kundera. En effet, il serait facile de trouver des ressemblances entre les héros de ses romans et ceux des livres de Milan Kundera, mais cela n'est pas étonnant car il s'agit d'auteurs de la même génération qui ont vécu pendant longtemps dans le même pays. Né en 1931, Ivan Klíma, de son propre nom Ivan Kauders, ne sait pas d'abord que ses parents sont d'origine juive parce qu'ils ne sont pas pratiquants. Les nazis ne lui permettront pas cependant de rester dans l'ignorance et l'écolier Klíma passera 3 ans dans le camp de concentration de Térézine. Le petit Ivan et sa famille survivront à cette épreuve qui pour beaucoup sera la station terminale. C'est un monde étrange dans lequel on doit répondre à la question « Pourquoi on n'a pas été assassiné dans son enfance » écrira-t-il beaucoup plus tard dans ses mémoires. Il ne sera pas facile pour lui d'évoquer cette période.
Je pourrais citer beaucoup de souvenirs, mais je n'aime pas écrire sur Térézine. C'est pourquoi je les ai réduits et je n'ai parlé que de choses essentielles. Quand on en parle beaucoup, j'ai l'impression que c'est un chantage sentimental par rapport au lecteur. J'ai des scrupules. C'est une expérience exceptionnelle. Je n'ai pas mérite à avoir survécu. Je l'explique d'ailleurs dans le livre. C'était un événement historique d'une dimension et d'une cruauté hors du commun. J'ai eu le malheur et la chance d'avoir traversé cette période. Donc je ne voulais pas et ne pouvais pas la passer sous silence, mais je ne voulais pas non plus que ce soit un chantage sentimental.
Après la guerre, Ivan Klíma étudie la langue et la littérature tchèque à l'université de Prague et puis devient journaliste. Il adhère au Parti communiste mais il se rend bientôt compte qu'il a fait une erreur monumentale. C'est aussi un des thèmes du premier tome de ses mémoires.
Le premier tome, comme toujours quand on écrit sur sa jeunesse et sur sa bêtise, est plus agréable à lire, plus intéressant. Le meilleur livre de beaucoup d'auteurs, c'est celui qui puise son inspiration dans leur jeunesse et leur enfance. Et l'intérêt du deuxième tome est plutôt dans l'aspect historique, car la population a été répartie en 3 couches, celle des collaborateurs, celle des résistants, et la majorité qui cherchait à traverser honnêtement cette période. Et j'ai voulu démontrer dans le deuxième tome que cette majorité soi-disant silencieuse n'était pas au fond tout à fait silencieuse et que ces gens avaient été en réalité bien actifs.
Comment se fait-il que des gens honnêtes, des démocrates, des personnalités importantes des arts, des lettres et des sciences aient pu adhérer au Parti communiste? Cette question ne cesse d'intriguer encore aujourd'hui, notamment les jeunes qui n'ont pas vécu sous le régime totalitaire. Ivan Klíma a décidé de répondre par un livre.
Je connais un homme dont je ne vais pas vous dire le nom, mais c'est un fasciste convaincu et je crois qu'il n'en a pas honte. Cet homme attaque tous les anciens communistes et il me déteste particulièrement. Il m'a reproché de n'avoir jamais écrit que j'avais été membre du Parti communiste, alors je me suis dit, bon, il a raison, cela ne s'explique pas en une seule phrase, j'ai été membre du parti ou je ne l'ai pas été. Je vais essayer donc d'expliquer comment c'est possible que moi et tant de gens de ma génération se sont laissés tellement abrutir. Et j'ai essayé d'en montrer les principales causes extérieures et intérieures. Dans mon cas, c'était notamment les impressions de la guerre qui ont contribué à cela.
Même si pas dit, ou tu les as, j'ai pris la lettre, t'as moins qu'à prescrire.
La structure du livre n'est pas cependant celle d'une simple autobiographie. Les chapitres retraçant la vie de l'écrivain alternent avec des passages plus généraux qui situent les événements de sa vie dans un contexte plus large.
J'ai cherché à ne pas me présenter comme plus astucieux que je ne l'étais à cette époque-là. C'est donc un rapport sur mes idées, puis sur mes doutes, mais qui ne sortait pas encore du cadre du parti. J'ai trouvé cependant que c'était un peu partial, comme si je m'excusais ou disais l'avoir compris. J'ai donc inséré dans le texte des essais dans lesquels je réfléchis sur les mêmes problèmes, mais avec une distance de 50 ou 40 ans.
Et puisque c'est déjà en dehors de sa biographie, l'auteur ose dire ce qu'il en pense aujourd'hui. Certains lecteurs, pour la plupart très érudits, lui ont confié avoir sauté ses essais parce qu'il les trouvait sans intérêt. D'autres lecteurs lui disent que ce sont justement ses essais qui sont les plus intéressants. Dans les années 1960, Ivan Klima travaille dans la revue littéraire devenue vecteur d'idées libérales sur la vie, la politique et la culture. Ces idées jouent un rôle important dans le grand mouvement de libération appelé communément Printemps de Prague, qui transformera et rajeunira tout le pays avant d'être écrasé par les chars soviétiques en août 1968. Entre 1969 et 1970, Ivan Klima vit et travaille aux États-Unis et lorsqu'il revient en Tchécoslovaquie, il est interdit de publication et doit gagner sa vie dans des professions ouvrières. Simultanément, il poursuit son œuvre littéraire qu'il publie en samizdat et devient un des écrivains tchèques les plus importants de sa génération. Ses romans, ses contes, ses pièces de théâtre et ses essais seront traduits dans 31 langues. Dans le deuxième tome de ses mémoires, l'écrivain évoque la période de l'occupation de la Tchécoslovaquie, son retour des États-Unis, la situation dans le pays occupé et l'influence néfaste de cette situation sur les gens, leurs familles, leurs rapports sentimentaux. Et il n'oublie pas le mouvement de dissidence dont il a été membre actif et qui a abouti à la Charte 77, appel signé par des intellectuels courageux qui allaient provoquer la colère des autorités communistes et mobiliser les critiques du régime. Aujourd'hui, Ivan Klima poursuit infatigablement son œuvre inspirée par sa vie. Il y a deux grands thèmes qui sont typiques pour ses inspirations et qui apparaissent pratiquement dans toutes les étapes de sa création littéraire, la solitude et l'homme face au mécanisme du pouvoir. La volonté de résister à la manipulation par le pouvoir et le rejet de la passivité face aux défis de la vie sont aussi les thèmes majeurs de ses mémoires. Je vous ai parlé des mémoires de l'écrivain Ivan Klima. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à David Rada, prise de son.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Larguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Vous le savez, une importante communauté rome vit en République tchèque comme dans de nombreux autres pays d'Europe centrale, de l'Est et des Balkans. Il en est de même ainsi également par exemple en Roumanie, comme nous l'a récemment tristement rappelé l'actualité européenne. La Roumanie justement envisage de modifier la dénomination officielle des membres de l'ethnie rome du pays. Officiellement, on ne parlerait donc plus de Rome en Roumanie, mais de Tsigane. La raison de cette décision, prise par le Parlement à Bucarest, est la ressemblance entre les appellations de Roumanie, Romania, en roumain, et de Rome, Romi, en roumain. Mais aussi le fait que le terme tzigane, tzigani en roumain, est beaucoup plus répandu dans le pays que celui de Rome. La question qui va donc nous intéresser dans cette émission est de savoir ce qu'il en est en République tchèque. Comme partout ailleurs en Europe, les Tchèques parlent essentiellement de Roms,
Romové,
et de Tziganes.
Tzikani.
Ce terme ou endo-ethnomime de Roms, qui désigne hommes, a été adopté par l'Union Romanie internationale en 1971 lors du premier congrès international des Roms. Celui-ci revendiqua le droit de ce peuple à être reconnu en tant que tel et adopta donc la dénomination Roms. Avant cela, seuls les Roms se désignaient de la sorte entre eux. Quant aux autres, les non-Roms, que les Roms désignent comme « gadjo » en Roumanie, ils parlaient le plus souvent de
« tzikani »
en tchèque, de « gypsies » en anglais, de « tzigainer » en allemand, de « tzingari » en italien, ou de « tzigan », de « gitan » ou même de « bohémien » en français. À propos de cette dénomination de « bohémien » qui apparaît en français, nous avons déjà évoqué son origine dans une émission précédente. En résumé, rappelons donc simplement que ce mot « bohémien » est apparu au XVe siècle suite à l'arrivée en France des premiers tziganes qui venaient de la Bohême, une des deux grandes régions de la République tchèque actuelle. Reste que cette dénomination de tzigane ne possède pas la même valeur sémantique selon les langues. Tandis qu'en français, le mot tzigane désigne un rom, en tchèque, le mot
tzigane
a le plus souvent une forte connotation péjorative. Même le dictionnaire de la langue tchèque, référence en matière de dictionnaire et équivalent local du Larousse ou du Petit Robert, présente le mot
tzigane
comme pouvant être un synonyme de vagabond, aventurier, menteur, escroc, voleur et ainsi de suite. Sans être assurément le meilleur exemple, les partisans de l'extrême droite tchèque parlent d'ailleurs presque exclusivement des
« tzikani »
et jamais des
« romové »
pour désigner ceux qu'ils combattent. Les Roms tchèques eux-mêmes ressentent cette différence. Pour nombre d'entre eux, l'emploi du mot
« tzikan »
dénote une connotation sinon raciste, au moins péjorative. Il s'agirait même d'une insulte. Dans la société tchèque, ce qu'on appelle le
« tzikanský způsob života »,
soit le style de vie tzigane, la façon de vivre tzigane, est d'ailleurs le plus souvent considéré comme un mode de vie à l'écart, une attitude asociale. Pour autant, il arrive que la dénomination
« tzigane »
n'est rien de péjorative, comme les Roms tchèques le reconnaissent. En fait, cela dépend essentiellement de la façon d'employer le mot et dans quel contexte ce mot est prononcé. Si le terme est employé sans préjugés apparents, alors
« tzigane »
sera bien synonyme de
« Roms »
et non pas de voleur de poules, de menteur, de vagabond ou de malfaiteur. Il est d'ailleurs intéressant de noter que souvent, les Roms tchèques se désignent entre eux comme des
« tzigani »,
même si la majorité d'entre eux préfèrent que les gadjo, c'est-à-dire les non-Roms, parlent d'eux comme des Roms.
Romové.
On le constate, la nuance entre l'emploi des termes
tzigane
et
Roms
n'est pas toujours évidente. Reste que pour une majorité de Roms tchèques, comme roumains, le mot
tzigane
possède le plus souvent une connotation négative. Et c'est ainsi et sur ce constat que se referme ce tchèque du bout de la langue. En attendant de vous retrouver non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Mějte slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Culture sans frontières. Anna Kubishta.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Culture sans frontières. Vous êtes bien sur Radio Prague, Radio Prague sur Internet désormais. Rencontre aujourd'hui avec une jeune graphiste française installée à Prague depuis 6 ans, qui a collaboré au visuel de nombreux événements culturels en République tchèque, comme par exemple le Fresh Film Festival. Récemment, elle a collaboré avec le Festival des films sur les droits de l'homme Jeden Svět, ou One World en anglais, qui se déroulera cette année du 8 au 17 mars. À vos agendas. Lors de cette interview, Pauline Kerleroux était en partance, entre deux mondes, puisqu'elle partait pour 3 mois à Londres sans savoir si cette nouvelle opportunité mettait un point final à son aventure pragoise. Rencontre.
Donc, je m'appelle Pauline Kerleroux. Et je suis française, je suis bretonne, et je suis arrivée à Prague il y a un petit peu plus de 6 ans, en fait.
Comment est-ce que tu es arrivée à Prague? C'est un hasard? Est-ce que c'est les vents qui t'ont portée plus à l'est depuis la Bretagne?
C'était un peu par hasard, en fait. J'ai étudié à Paris, et j'ai fait une école de graphisme à Paris qui pendant 5 ans. Et quand j'ai terminé, j'avais très envie d'aller à l'étranger, un peu comme ça, quoi, sans idée précise. Et puis j'ai eu l'idée de venir à Prague un peu par hasard. Je connaissais pas du tout Prague, j'avais pas vu de photos, même rien. Vaguement, on s'est dû parler qu'il y avait une grosse horloge et tout ça, mais c'est tout. À force, je me suis mis dans la tête de venir, et puis à force d'en parler avec des connaissances et tout ça, j'ai un oncle qui avait une ancienne copine de lycée qui habite Prague et qui a pu m'héberger au départ. Et puis aussi, quand même, un ami qui, Stjepan, qui lui, au moment où j'arrivais à Prague, partait à Vienne. J'avais vu, il était venu à Paris en Erasmus, donc je connaissais peu, mais il m'a donné l'idée de m'inscrire à Umprum, à l'école
d'art
appliqué, en fait. Un peu comme une sorte d'Erasmus encore en plus, quoi. Alors que j'avais déjà fini mon école.
Alors ton école à Paris, c'était quoi exactement? Est-ce qu'on pourrait
oui,
préciser?
Oui, à Paris, j'ai fait l'ESSAC Penningen. C'est une école privée de graphisme, l'école supérieure d'art graphique. Et donc j'avais vraiment terminé, mais du coup, de faire comme ça un semestre en plus à l'école ici, c'était une très bonne idée, quoi, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré la plupart des amis que j'ai maintenant. Et puis j'ai rencontré aussi, par exemple, en fait, moi, j'y étais, mais dans l'idée de rester plus longtemps, j'avais envie d'essayer de rester plus longtemps à Prague. Et du coup, dans cette optique-là, comment dire, bon, les choses marchent différemment. Et par exemple, j'ai rencontré Alan Zaruba, qui est graphiste, et puis qui est très actif dans tout ce qui est organisation d'événements sur le graphisme, etc. Et il faisait des interventions à l'école, des présentations, quoi, des conférences ou des choses comme ça. Il m'a prise en stage au départ, donc quand j'ai terminé les 6 mois à l'école, après il m'a prise en stage. Finalement, il m'a embauchée, donc j'avais un petit salaire, enfin c'est pendant
donc
un an.
C'était un départ en douceur, comme ça, en s'installant et en faisant des connaissances, en rencontrant du monde et en creusant son trou finalement petit à petit, de manière assez naturelle finalement.
Bah oui, en fait, et puis c'est vrai comme tout est parti du fait que personne m'a forcé à venir ici, personne m'attendait non plus. C'est vraiment une espèce d'enthousiasme que j'ai eu, et puis finalement, c'est souvent dans ces cas-là que ça fonctionne le mieux, quoi, en fait, parce qu'on est en forme, enfin je sais pas comment dire, on rencontre beaucoup plus de gens que si, par exemple, j'étais restée à Paris. Je pense que, dans un sens, ce qui est drôle, c'est que souvent, des amis qui me disent « Ah bon, mais tu vas là-bas, et qu'est-ce que tu vas faire? Et t'as pas peur ?» ou je sais pas, des choses comme ça. Et bizarrement, j'aurais été beaucoup plus inquiète de rester à Paris que de partir. Je trouve que, c'est dans un sens, c'est plus facile, parce que on a déjà, comme ça, moins le stress de, je sais pas, d'échouer ou quelque chose. Parce que dans tous les cas, on fait une expérience, on sait qu'on peut toujours revenir. Et dans un sens, je trouve ça beaucoup plus confortable, en fait, que...
Il y a de l'enjeu sans en avoir, en fait.
Voilà, oui, on a toujours... je sais pas, peut-être qu'inconsciemment on a toujours une bonne excuse si ça marche pas, du coup ça dédramatise, je sais pas si ça peut jouer.
Et puis finalement les choses se font de manière naturelle, justement. Bah voilà, pour revenir sur un peu sur ta formation. Donc tu dis que tu as fait donc une école à Paris, après tu as fait donc Umprum ici, donc l'école des arts appliqués à Prague. Est-ce que tu as remarqué des différences? Qu'est-ce qui t'a plu, disons, dans une école plutôt que dans l'autre, dans les formations, dans les types d'approches finalement?
C'est très très différent. Les SAG à Paris, c'est une école qui est beaucoup plus, comment dire, sur un modèle, comment on dirait, un lycée, quoi. C'est-à-dire que c'est très 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 cadré. C'est il faut être à 9h du matin. Si on est en retard, on a un mot aux parents. Enfin, c'est quelque chose de très
très scolaire.
C'est pas du tout, c'est très scolaire, extrêmement scolaire. Mais par contre, ça a l'avantage de la formation fait qu'on fait de la photographie, de l'illustration, du design. On touche un peu à tout, ce qui pour dans mon cas en tout cas me convient bien. C'est comme ça de pouvoir après mixer, faire un peu d'illustration alors qu'on est en photographie, ou enfin moi je trouve ça assez ça me convient bien. Alors qu'à Umprum, chacun a son atelier est bien défini, donc c'est soit photo, soit illustration, etc. Les gens font des stages, ils vont faire des stages même dans d'autres écoles, etc., ou dans d'autres ateliers dans Umprum, mais c'est beaucoup plus comme ça cloisonné. Et par contre aussi, c'est un rythme qui n'a rien à voir. Nous, c'est vrai qu'on avait à les SAG, on a des rendus toutes les semaines. Donc c'est très stressant, c'est très scolaire, quoi, vraiment. En même temps, du coup, forcément, on carbure aussi beaucoup. Et ici, c'est beaucoup plus, c'est donc 2 consultations par semaine, je crois, à peu près. Donc c'est un rythme qui est différent. Je pense que ça s'adresse souvent à des gens qui sont aussi un peu plus âgés. Dans l'école à Paris, les gens souvent commencent tout de suite après le bac, donc vers 18 ans. Alors qu'à Umplum, pour y rentrer, c'est difficile. Les gens parfois commencent à 27 ans, des choses comme ça.
Bah, finalement, ça convenait très bien puisque t'es arrivé après ta formation à Paris.
Oui, du coup. Ouais, moi, bah, j'avais 24 ans, en fait, je pense. Enfin, effectivement, c'est très différent. Par contre, c'est vrai aussi, ce qui est drôle, c'est l'ambiance dans l'école, quoi. Je me rappelle qu'au début, je trouvais ça assez super qu'il y ait chaque atelier fait une fête chaque trimestre, ou je sais plus trop à quelle fréquence. Et donc, tout le monde va dans l'école où il y a une pompe à bière, il y a les DJ, etc. Truc qui, pour moi, était inimaginable
à Paris,
qui était donc, le soir s'est terminé, enfin, tout le monde, c'est pas du tout la même ambiance. Et ça, c'est vrai que c'est assez sympathique ici que les gens viennent facilement à l'école pour le plaisir et tout ça.
Alors, tu disais qu'après, tu as travaillé avec donc un graphiste,
oui.
Alan Zaroba. Donc, tu as commencé à travailler ici en République tchèque. Tu es resté. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu es resté. C'est parce que
oui,
tu as trouvé du travail.
Oui, en fait, tout s'est enchaîné un peu comme ça, de façon un peu facile, finalement, c'est vrai. Parce que j'ai travaillé pour lui. Grâce à ça, j'ai fait d'autres connaissances, etc. Après, j'ai travaillé 2 ans dans une boîte de pub. Parce qu'entre-temps, j'ai fait un magazine sur les voitures. Alors du coup, sa femme a dit, tiens, tu devrais voir Teresa Sirakova qui travaille pour la boîte de pub, qui fait Škoda, donc Ligas Delaney. Du coup, j'y suis allée montrer ce catalogue. Hop, elle m'a proposé de m'embaucher. Du coup, j'y suis restée 2 ans. Donc tout comme ça, ça s'enchaînait un peu spontanément. Et puis en parallèle, en fait, j'ai ma meilleure amie, disons ici, Adela Svobodova, que je connais aussi depuis le début grâce à l'école, et qui, elle, est graphiste indépendante. Et puis, au bout d'un an que j'étais à Prague, je crois, elle m'a proposé de travailler ensemble sur un projet sur le Fresh Film Festival.
Justement, oui, c'est sur le visuel, en fait. C'est
oui.
Le festival qui se déroulait. Alors, autrefois, à Karlovy-Vary, maintenant, il s'est déplacé à Prague. Mais enfin, les
voilà.
Auditeurs sauront qu'à une époque, c'était à Karlovy-Vary. Et c'est le festival du film étudiant, en fait.
Exactement, c'est ça. Et du coup, elle m'a proposé de travailler dessus ensemble. Et c'est vrai que c'est un travail qui prend pas mal de temps. Pendant quasiment 2 mois, c'est vraiment très intense. Du coup, en fait, on a fait ça pendant 5 ans. Tous les étés, on bossait ensemble sur ça. Et puis, ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai laissé tomber la boîte de pub. Enfin, j'ai quitté. J'ai continué un petit peu en freelance. Mais surtout, ça fait 1 an et demi que je travaille avec Adela. On s'est fait une sorte de petit studio.
À deux.
À deux, voilà. Et du coup, grâce beaucoup à Adela, en fait, qui a souvent des propositions de travail pour des trucs culturels, pour des expos, faire des catalogues pour des expos, des affiches et des choses comme ça. Bah, c'est chouette, quoi. On a du travail.
Alors, justement, ton dernier projet en date, c'est le spot, la bande-annonce du festival Jedensiet. Alors, le festival Jedensiet, ou One World en anglais, c'est un festival qui est organisé depuis pas mal d'années, depuis plus d'une dizaine d'années, par l'ONG People in Need, Człowiek w Tiśni, et qui est en fait consacré à des films sur les droits de l'homme. C'est un festival qui a énormément de succès et qui, tous les ans, en mars, propose une sélection assez importante de films sur ce thème. Donc, quel est ton rôle, disons, dans la préparation de ce spot?
En fait, ce travail-là, ça a été par un autre intermédiaire, c'est par Andrzej Prowaznik et Martin Duszek, qui sont des documentaristes, qui sont réalisateurs, et qui ont déjà travaillé, je crois, pour Człowiek w Tiśni ou pour Jedensiet. On leur a proposé de participer à la compétition qui a eu cette année pour le visuel, en fait, de Jedensiet. Donc, ça comprend tout ce qui est affiche, etc., et aussi, justement, le fameux... la bande-annonce ou la Znielka, comment dire. Ils m'ont proposé qu'on le fasse ensemble. Donc, en fait, depuis le départ, on a travaillé tous les trois pour trouver une idée quelconque pour l'ensemble de la communication. Et bien, finalement, c'est nous qui avons été choisis dans cette sélection. Il y a eu plusieurs propositions. Et donc, depuis le départ, comme ça, on travaille ensemble sur l'idée.
Alors, est-ce qu'on peut un petit peu dévoiler quelque chose ou c'est encore secret? Alors, je sais, en tout cas, ce qu'on peut déjà dire, parce que c'est sur le site, c'est la phrase, en fait, qui accompagne le spot, qui est, en fait, « Vaše energie je potřeba jinde », c'est-à-dire « votre énergie, on a besoin de votre énergie ailleurs ». Est-ce qu'on pourrait dire un petit peu plus sur le spot en lui-même?
En fait, comment dire, je crois que ce qui était important pour Jedensiet, qui faisait partie des choses qu'ils exigeaient, en fait, c'est que la communication pousse les gens à agir, quoi, essayer d'être eux-mêmes un peu plus actifs. Alors, je sais pas, au moins pour se renseigner en allant voir des films ou en étant éventuellement soi-même actif au quotidien dans certaines situations pour tout ce qui concerne les droits de l'homme et puis tout ce qu'on peut imaginer qui de comme situation. Et du coup, on a eu l'idée donc pour cette phrase-là, donc qui est le motto quoi de cette année. Et en fait, la réalisation est passée par différentes phases. Et finalement, comme on est encore dedans, on n'a pas trop le recul et j'espère que ce sera compréhensible, etc. Mais l'idée, en fait, c'est de jouer sur toutes ces espèces de petits jeux qu'on fait. C'est pas des petits jeux, c'est pas le bon mot, mais quand on est donc au bar ou des trucs avec des amis, on connaît tous ce moment où il y a un peu un blanc dans la conversation et puis on se met à faire un truc. Est-ce que tu sais faire ça, faire tenir une cuillère sur ton nez, ou est-ce que tu sais bouger tes oreilles comme ça sans les mains, des trucs comme ça. Et c'est un truc assez automatique que tout le monde connaît, c'est que quand il y en a qui se met à le faire, tout le monde se met à essayer et puis en fait c'est un côté un peu absurde quoi. C'est une espèce de gestes qui n'ont aucun sens et c'est juste de performance un peu débile et tout. Et du coup ça a été ça l'idée quoi. Donc c'était de trouver le maximum comme ça de ces espèces de gestes qui sont un peu la métaphore pour rien faire quoi.
D'accord.
Donc c'est un peu genre symbole d'un moment où on pourrait peut-être faire quelque chose de plus constructif.
Alors, par exemple, participer, devenir membre par exemple de Chloé Ftisny, de donner de l'argent tout simplement ou même de s'engager dans d'autres actions.
Voilà. Donc c'était un peu tout l'enjeu aussi, c'était on voulait pas non plus être moraliste à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Du coup, bon, c'est censé être un peu rigolo, quoi. C'est une espèce de truc un peu débile. Donc c'est ça qui est devenu le visuel du festival.
Pour terminer un petit peu, puisque en fait là tu pars pour 3 mois à Londres, c'est peut-être une nouvelle phase de ta vie, on ne sait pas encore. Au moment où on enregistre, de toutes les façons, c'est pas le moment où on diffuse, donc on ne sait pas si ça va te plaire ou si tu vas rester, si tu vas revenir à Prague ou pas. Qu'est-ce que tu tires de ces 6 années à Prague, si tu devais tirer un petit bilan?
Ben beaucoup en tous les cas. Comment dire? C'est vrai que j'ai du mal encore à imaginer que je reviendrai pas à Prague, et ce qui risque de se passer, comme j'ai tout d'un coup cette proposition d'aller travailler en fait à Londres et puis à Paris. J'ai du mal à me faire à l'idée, parce que c'est vrai que je me sens très bien ici quoi. Et j'en ai parlé avec quelques autres Français que je connais qui vivent à Prague aussi. Et tant bretonne, je sais pas, je trouve qu'il dans le tempérament des Tchèques et des Bretons, il y a un petit peu, je crois qu'il y a quelque chose, une affinité, quelque chose qui passe très bien quoi. Les Tchèques ont la réputation d'être un peu froids d'abord. Moi, je les trouve au contraire hyper chaleureux, et puis que c'est des gens sur qui on peut compter, etc. Alors, je sais pas si on peut dire ça des Bretons, mais il y a le côté aussi très convivial les ambiances dans les pubs, etc. Bon, c'est un truc qui est assez typique aussi en Bretagne. Et du coup, je sais pas, moi, c'est quelque chose qui, c'est vraiment de cœur que je suis venue ici et que j'y suis aussi restée. Après, j'ai eu la chance, comme j'expliquais plus tôt, concrètement j'ai pu ici avoir un travail, etc., puis rester. Mais c'était vraiment, c'est un pays qui me plaît beaucoup. Ouais.
C'était donc la graphiste française Pauline Kerlerouge. Je vous rappelle que Pauline a passé 6 ans en République tchèque et qu'elle a récemment collaboré au visuel et à la bande-annonce du prochain festival des films sur les droits de l'homme, Jeden Svět, One World. Je vous rappelle les dates du festival, du 8 au 17 mars 2011. Merci de votre fidélité. À bientôt. Bon vent. Ahoy.